Vous écoutez On lit pour vous.
Parents, comment fêter l'anniversaire de son enfant handicapé? Un texte de Caroline Delagoutte, paru le 9 juillet 2026 dans Ombre et Lumière. Arrive l'anniversaire de son enfant. Derrière la joie que devrait susciter la préparation de cet événement peut se cacher, pour beaucoup de parents, une réalité nuancée. Entre eux, fuir l'idée ou surinvestir cette étape, comment la traverser? 1. Un constat parfois douloureux. L'anniversaire rappelle combien l'enfant peut être seul. Pourquoi organiser un goûter s'il n'a pas d'amis? Comment trouver le courage d'inviter alors que le quotidien est si éprouvant? Mon fils est autiste, avec des difficultés dans les relations sociales, explique Juliette. Son anniversaire approchant, il a invité toute sa classe, 12 enfants. 3 réponses, 3 refus. Mon cœur s'est brisé en entendant la réponse de mon fils. Pourquoi personne ne veut venir? Des imprévus, comme un changement de comportement de l'enfant ou des soucis de santé peuvent gâcher la fête. Nous avions prévu une sortie pour l'anniversaire de notre fille, des moments de jeu à la maison. Et finalement, nous n'avons rien pu faire à cause de son état. Faut-il cependant renoncer à fêter son enfant? 2. Les inventions de l'amour. Célébrer son enfant demande souvent de l'ingéniosité. Au départ, je ne savais pas qui inviter sa classe pour fêter les 7 ans de notre fils, témoigne Emmeline. J'ai demandé à son AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, de me donner le nom des enfants qui avaient une affinité avec lui. Elle m'en a cité 6. Nous avons fait des petits cartons et tous sont venus. C'était un moment vraiment extraordinaire. Pour ne pas forcer l'amitié, d'autres parents invitent quelques personnes avec qui l'enfant se sent à l'aise. Nous avons fêté notre fils au zoo avec son frère, sa sœur, sa cousine et les fils d'une amie, évoque Fanny. J'ai préféré ça plutôt que de risquer que personne ne vienne. D'autres mobilisent la créativité de leur réseau. Chaque année, je lance le défi carte anniversaire pour Geoffroy, illustre Valérie. Ensuite, nous collons les cartes dans un cahier pour de magnifiques souvenirs. 3. Pour un anniversaire serein. Rien de tel que la simplicité pour vivre un moment de qualité. Pourquoi ne pas imaginer une fête sans forcément convier du monde, mais en fonction de ce qu'aime vraiment l'enfant? S'il est sensible à la musique, la passer plusieurs fois. S'il aime une activité spéciale, en faire le cœur du moment. Il en va de même pour les cadeaux. À quoi cela sert-il de les multiplier, si un seul satisfera l'enfant, même si c'est le même chaque année? Fêter l'anniversaire, c'est l'occasion de dire à son enfant « Tu es unique et je t'aime », de célébrer ses progrès de l'année et de faire mémoire des joyeux événements, si petits soient-ils. Témoignage. Claire, mère de François, 15 ans, avec un trouble autistique et dépressif. Je n'avais pas de retour. Fêter l'anniversaire de François a toujours été compliqué. Comme pour mes autres enfants, j'ai organisé chaque année des goûters ou des repas avec des garçons de son âge, en privilégiant le réseau amical, familial et paroissial, mais il n'y a jamais eu de retour. Pas une seule invitation depuis son plus jeune âge. C'est douloureux pour moi, mais pour François, je n'en sais rien. Il n'exprime pas grand-chose. Je me dis que c'est quand même important d'organiser un temps fort pour qu'il voie du monde. Pour son prochain anniversaire, par exemple, j'ai prévu une partie d'Escape Game, un jeu d'aventure grandeur nature, NDLR. Je ne sais pas comment il va réagir. À l'écouter, il n'y a pas besoin de fêter son anniversaire. Notre fils a une prédilection pour le foot. Dans ses listes de cadeaux, les idées tournent uniquement autour de cela. J'essaie de l'ouvrir à la nouveauté, mais ce n'est pas évident. Je m'essouffle un peu. Heureusement, sa marraine est formidable. Quand elle vient à Paris, ils partent au restaurant, au théâtre, elle arrive à avoir avec lui un moment de partage. Marie-Charlotte, mère de Jean-Baptiste, 11 ans, polyhandicapé. Nous nous adaptons à ses goûts. J'organise chaque année une fête familiale pour l'anniversaire de Jean-Baptiste, à une date qui permet de réunir le plus grand nombre possible de ses 5 frères et sœurs. Notre fils est non-verbal et s'exprime par des vocalisations. C'est un enfant joyeux qui aime être entouré. Il est très sensible à la musique et au son. Lors de ces fêtes, nous ne nous privons pas. Musique à plein volume, trompette, chant, éclat de rire. Les cadeaux que nous lui remettons sont adaptés à ses goûts. Des objets sonores, comme une boîte à musique, ou des accessoires relaxants favorisant son confort. J'aime aussi lui offrir de beaux vêtements. Je tiens à ce qu'il soit élégant. Son anniversaire est célébré dans son internat le jour même, autour d'un gâteau. J'aimerais pouvoir inviter chez nous ses amis du centre, mais c'est impossible en raison du manque de place et des besoins spécifiques de chacun. Tous sont en fauteuil roulant et présentent des pathologies importantes. Pour rendre un tel projet possible, il faudrait imaginer un lieu adapté, accessible et sécurisé, et prévoir la présence de bénévoles. L'œil de l'expert. Il va avoir 18 ans. Comment célébrer sa majorité ? Marielle Lachenal est médecin et mère de 5 enfants, dont Géraldine atteinte d'un handicap complexe. Elle insiste sur l'importance de redire à l'enfant sa place dans la famille et la société, notamment lors du passage de la majorité. Pourquoi, d'un point de vue pédagogique, est-il important de célébrer les anniversaires ? Je conteste un peu l'idée qu'il faille toujours chercher un objectif pédagogique. Un anniversaire est d'abord l'occasion de célébrer une personne. C'est lui rappeler qu'elle a une place dans sa famille, parmi ses amis et dans la société, et renforcer ce sentiment précieux d'appartenance. Ce moment est propice pour reprendre les albums photos ou le livre de vie, raconter les étapes traversées, mesurer le chemin parcouru et les progrès accomplis. Bien sûr, c'est l'occasion de souligner le temps qui passe. Il y a une année de plus. Et comme la société en fait une étape, on leur propose de marquer le coup, comme leur père. Que peuvent ressentir les parents à l'approche de la majorité de leur enfant ? Pour les parents, les 18 ans peuvent être une étape particulière. Cette date rappelle l'entrée dans l'âge adulte, avec les démarches administratives ou les questions de protection juridique, le droit de vote. Je connais des amis qui n'ont pas voulu prendre de mesures de protection, non pas que l'enfant soit en mesure de s'autoprotéger, mais c'est trop complexe de le voir devenir adulte. Ensuite, il y aura d'autres caps douloureux à passer. En tant que parent, on sait un peu faire. Il y en a déjà tant d'autres que nous avons réussi à passer. L'entrée en cours préparatoire, l'entrée au collège. On saura passer les autres, le mariage des enfants d'amis du même âge, leur entrée dans le monde du travail. On y arrivera. Comme toutes les autres étapes déjà franchies, celle-ci finit par se traverser aussi. Y a-t-il une manière distincte de marquer les 18 ans ? Non. Certains jeunes aiment les rituels, d'autres préfèrent la nouveauté. L'essentiel n'est pas tant l'âge des 18 ans que la façon de célébrer la personne selon ce qui lui procure du plaisir. Une fête réussie est avant tout celle qui lui permet de se sentir reconnue, aimée et entourée. Pour les 18 ans de Géraldine, nous avions organisé une grande fête avec tous nos amis pour célébrer sa vie et tous ceux qui nous avaient accompagnés. Ses frères et sœurs avaient préparé un diaporama en expliquant que ce n'était pas un anniversaire de 18 ans classique. Pas de bac, pas de permis, pas de bande de copines, mais une foule d'amis, et ils avaient illustré d'anecdotes amusantes notre vie de famille. Une vie finalement qui débordait, mais sans nier les fragilités, les peurs et les gouffres frôlés. Pour Géraldine, ce qui comptait n'était pas le chiffre 18, mais la fête. À l'époque, sa principale inquiétude était qu'on lui répétait à l'Institut médico-éducatif qu'elle était désormais une dame. Elle en était terrorisée et protestait. « Je ne suis pas une dame !» Aujourd'hui, Géraldine adore toujours les anniversaires. Elle en voudrait 1000, avec ses frères et sœurs, ses tantes, ses voisins. Elle attend les cadeaux, même les plus petits, parce qu'ils signifient qu'on a pensé à elle. Elle aime souffler les bougies, entendre tout le monde chanter et se sentir au centre de l'attention. Qu'en est-il des cadeaux ? C'est compliqué de trouver le cadeau. Cela va mieux quand on range ses critères dans sa poche, qu'on accepte de répondre aux rêves de son enfant si grand avec ses rêves si décalés parfois. Alors oui, on erre au rayon voiture de pompier, on hésite devant un déguisement de Batman, on sort sa carte bleue pour une veste Adidas qu'on n'a jamais offerte aux autres. Géraldine a besoin de voir tout de suite les cadeaux. Elle a besoin d'ouvrir et de déchirer le papier. Le pire, ce sont les gens qui nous demandent des idées quand déjà nous n'en avons pas pour nous. C'était « Parents, comment fêter l'anniversaire de son enfant handicapé ?» Un texte de Caroline Delagoutte, paru le 9 juillet 2026 dans Ombre et Lumière.
Éphéméride, un regard à travers l'histoire. C'est arrivé un 24 août. En 79, éruption du Vésuve. Le volcan Vésuve entre en éruption avec une violence dévastatrice, ensevelissant les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum sous la cendre et les gaz brûlants. Des milliers d'habitants périssent, figés dans les positions de leur mort par la cendre volcanique. Les fouilles archéologiques menées à partir du 18e siècle révéleront un instantané exceptionnel de la vie quotidienne romaine. Cet événement reste l'une des catastrophes naturelles les plus célèbres de l'Antiquité. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août.
Film L'Odyssée, une très bonne publicité pour l'île d'Ulysse. AFP, lundi 10 août 2026, dans le Journal de Montréal. Sur le traversier qui s'apprête à accoster sur l'île grecque d'Ithaque, Giorgia Ongarato affiche sa passion pour le héros antique Ulysse sur son T-shirt frappé du mot « Odyssée » et d'un vers en grec ancien de ce poème épique. Pour cette Italienne de 50 ans, venue de Bolzano, poser pour la première fois le pied sur cette île de la mer Ionienne relève du rêve. J'ai étudié le grec ancien quand j'étais enfant. J'aime Ulysse et j'ai vu récemment l'Odyssée, confie-t-elle à l'AFP. J'ai trouvé le film de Christopher Nolan formidable, ajoute-t-elle. Comme elle, de nombreux admirateurs du héros de la guerre de Troie associent spontanément Ithaque à son roi légendaire revenu chez lui après 10 années d'errance. Pourtant, loin des bondés Mykonos ou Santorin, Ithaque est resté à l'écart des grands circuits touristiques grecs. Cette île escarpée, tapissée d'oliviers et de cyprès et cernée d'eau turquoise affiche d'ailleurs un calme surprenant en ce mois d'août, sommet de la saison touristique en Grèce. Le film L'Odyssée a soudainement replacé Ithaque sous les projecteurs alors que pas la moindre scène n'y a été tournée. Le réalisateur a préféré une île italienne au large de la Sicile, Favignana, pour planter le décor de la terre natale d'Ulysse. Bonne publicité. Une décision qui ne semble guère froisser les quelques 3000 habitants d'Ithaque qui ont pu déjà assister à 2 projections en plein air après la sortie mondiale de l'œuvre cinématographique le 16 juillet. Le film est une très bonne publicité pour l'île, se félicite Ximi Xoxa qui tient une taverne à Vati, capitale de l'île. Petit à petit, le film va être vu dans le monde entier et susciter la curiosité des touristes grecs et surtout étrangers, dit-il. Le maire d'Ithaque, Dionysis Stanitsas, ne cache pas une légère déception. Il avait tenté de convaincre la production de tourner au moins une partie du film sur l'île. « Nous avions contacté l'équipe de production pour demander que certaines scènes soient tournées ici », explique-t-il. « Malheureusement, cela n'a pas été possible. » L'édile table toutefois sur une augmentation du nombre de visiteurs l'an prochain. Pour cette année, les réservations étaient déjà bouclées avant la sortie de l'Odyssée, selon lui. Le film va progressivement être diffusé dans le monde entier et les gens vont commencer à planifier des voyages à Ithaque, prédit-il. Plusieurs statues d'Ulysse ou d'Homère ornent toutefois les places des villages, dont l'une devant la mairie. Caïque Télémaque. Sur le petit port écrasé de soleil paraissent voiliers et caïques, petites barques de pêcheurs colorées dont certains portent le nom de Télémaque, le fils d'Ulysse ou Calypso. Quelques boutiques déclinent, mais avec modération, des souvenirs inspirés du chef-d'œuvre épique Buste d'Homère, T-shirt Pénélope ou du Cyclope Polyphème, assiette murale décorée d'un cheval de Troie. À quelques kilomètres de là, au son des grillons, des vacanciers profitent des chaises longues et parasols pour parfaire leur bronzage. C'est sur cette plage de Dexia, bordée d'une oliveraie, que, selon la mythologie, les Phéaciens déposèrent Ulysse endormi pour son retour à Ithaque. Quand ils viennent à Ithaque, tous les gens me disent « Nous voulons des vacances, nous voulons un bel endroit, mais nous voulons aussi l'histoire », souligne l'archéologue et philologue Spiros Kouvaras au musée du village de Stavros qui présente les découvertes archéologiques sur l'île. Sur place, le visiteur ne découvre ni palais d'Ulysse, ni site archéologique spectaculaire susceptible de confirmer l'existence du héros homérique. Et pour Tegan Messing, touriste américaine de 22 ans, diplômée en anthropologie de l'Université du Michigan, le film est un bon moyen d'inciter davantage de personnes à s'intéresser à Homère et à la mythologie. Mais ce n'est clairement pas une adaptation fidèle du texte original, insiste la jeune femme qui a tatoué sur son bras gauche une cariatide, une statue de femme utilisée comme colonne dans l'architecture antique grecque. L'œuvre de Christopher Nolan a d'ailleurs soulevé quelques controverses en Grèce, notamment sur le fait qu'il a été tourné en grande partie en dehors du pays. Parmi les lieux de tournage en Grèce, dans la péninsule du Péloponnèse, figure notamment la grotte de Nestor pour les scènes avec le cyclope. L'archéologue Spiros Kouvaras modère quelque peu l'impact du film. « Derrière le film de Nolan, il y a Homère », rappelle cet érudit. C'était « Film L'Odyssée, une très bonne publicité pour l'île d'Ulysse ». AFP, lundi 10 août 2026 dans le Journal de Montréal.
Reddit, votre nouveau conseiller? 6 mises en garde avant de cliquer. Un texte de Fabien Major, paru le 7 août 2026 dans Info Bref. Il y a 30 ans, on demandait conseil à son beau-frère ingénieur. Aujourd'hui, on le demande à un inconnu qui s'appelle U/Dividend Grandpa 42. Les forums financiers du service de forum en ligne Reddit, comme R/Personal Finance Canada, R/Canadian Investor, R/Wall Street Bets, R/Penny Stocks, rassemblent des millions de personnes qui échangent gratuitement, sans jargon, sans rendez-vous, mais non sans conséquences. J'y trouve moi-même de bonnes questions et parfois d'excellentes réponses. Mais quiconque a écrit un livre sur les mensonges de son banquier devrait aussi s'intéresser aux mensonges de la foule. Voici 6 réflexes à développer. 1. Vous êtes dans une chambre d'écho, pas dans une salle de délibération. Le système de vote de Reddit ne récompense pas la vérité. Il récompense l'approbation, un avis nuancé, contrariant ou techniquement complexe, se fait enterrer sous les votes négatifs, un avis simple et rassurant, remonte en haut du fil. Après 20 minutes de lecture, vous avez l'impression d'un consensus mondial. Vous avez, en réalité, relu 4 fois la même opinion. 2. L'uniformité, c'est louche. Posez la question « Quel courtier choisir ? » Dans 10 sous-forums différents, vous obtiendrez les 2 ou 3 mêmes plateformes de courtage en direct, souvent avec les mêmes arguments, presque les mêmes tournures. Ce n'est pas la preuve d'une supériorité. C'est la signature d'un marketing d'influence efficace et d'un troupeau qui se répète. 3. Les promotions en boucle. Les mêmes 3 livres, les mêmes 2 crypto-monnaies, les mêmes FNB, les mêmes conférences Zoom gratuites, place limitée. Quand un contenu
revient avec une régularité mécanique, mois après mois, porté par un noyau de compte hyperactif. Cessez de vous demander si c'est bon et demandez-vous plutôt qui encaisse quand je clique. 4. L'anonymat sans conséquence. Un professionnel financier inscrit à l'Organisme canadien de réglementation des investissements, OCRI, ou à l'Autorité des marchés financiers, AMF, met sa licence, sa réputation et son gagne-pain en jeu chaque fois qu'il ouvre la bouche. Un pseudonyme, lui, ne risque rien. Aucune vérification de compétences, aucune divulgation de conflits d'intérêts, aucun recours si le conseil vous ruine. Il peut supprimer son compte et renaître demain matin sous un autre nom. 5. Le pump and dump n'est pas une théorie. Un groupe crée du volume et de l'euphorie autour d'un titre obscur. Le prix s'envole. Les initiés vendent au sommet. Les derniers arrivés ramassent la facture. En septembre 2025, l'autorité américaine des marchés financiers, Securities Exchange Commission ou SEC, a suspendu les transactions sur les titres de QMMM Holdings, une société de Hong Kong, après une flambée de près de 960% en moins de 3 semaines, alimentée par des promotions sur les réseaux sociaux entourant un virage vers la crypto-monnaie. La même année, le régulateur indien des marchés financiers a mené des perquisitions contre des stratagèmes du même type orchestrés par vidéo et médias sociaux. Les forums sont le carburant parfait de ces manœuvres. 6. La chasse aux sorcières contre les professionnels. Le sport national de plusieurs sous-forums, dénoncé en bloc les vendeurs de fonds et les banksters, certaines critiques sont amplement méritées et je les formule moi-même depuis des années. Mais le raccourci est dangereux. À force de traiter tous les professionnels encadrés comme un escroc, on pousse les gens vers des inconnus qui, eux, n'ont strictement aucune obligation légale envers leur portefeuille. Drapeau rouge suprême, le code promo. Méfiez-vous du témoignage généreux. Voici ce qui a changé ma vie financière, qui se termine par un lien d'affiliation, un code de parrainage, un groupe Discord privé ou un abonnement premium. Le conseil n'était que l'emballage de la commission. Plus le récit est touchant et le ton désintéressé, plus il faut vérifier ce qu'il y a sous le lien. Méfiez-vous aussi des captures d'écran de gains spectaculaires. Personne ne publie ses pertes. Des analyses DD impressionnantes rédigées en 10 minutes par quelqu'un qui n'a jamais lu un état financier, DD pour due diligence, en français vérification diligente ou vérification au préalable, un examen attentif que devrait faire l'acquéreur d'une entreprise avant de conclure une transaction. Des conseils fiscaux américains concernant les ROTH, IRA ou 401K, comptes et plans de retraite et d'épargne américains, appliqués tels quels à un CELI ou un REER par des Québécois qui n'ont pas vu la différence. Reddit est un excellent endroit pour trouver des questions, mais c'est une très mauvaise place pour trouver des réponses définitives. C'était Reddit, votre nouveau conseiller. 6 mises en garde avant de cliquer. Un texte de Fabien Major, paru le 7 août 2026 dans Info Bref.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. En moins 55, Jules César envahit la Bretagne. Le général romain Jules César mène ses légions à travers la Manche pour une première expédition sur les côtes de l'actuelle Angleterre. Cette incursion, davantage symbolique que conquérante, marque le premier contact direct de Rome avec les îles britanniques. Elle prépare le terrain pour la conquête romaine de la Bretagne qui se concrétisera près d'un siècle plus tard. Cet épisode est relaté par César lui-même dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août.
Changer son testament sans en informer ses héritiers. Un texte de Didier Burt, paru le 23 juillet 2026 dans Bel Age. Les finances personnelles et les questions juridiques sont parfois un vrai casse-tête. Des experts démêlent le vrai du faux. Ça passe ou ça casse? Ça passe, mais il est possible de désigner d'autres héritiers n'importe quand. Au Québec, toute personne peut disposer librement de ses biens, même au détriment de ses enfants et de son conjoint, explique Steve G. Kelsey, notaire à Saint-Léonard, qui précise que le conjoint marié survivant a toutefois des droits sur le patrimoine familial, tout comme les enfants à charge au moment du décès. En règle générale, le testateur n'est pas obligé d'avoir le consentement des héritiers, mais il devrait au moins informer le liquidateur en lui donnant une copie du testament modifié, suggère le notaire. Par ailleurs, la liberté de modifier le testament ne doit pas faire oublier les conséquences qui se produiront au décès. En effet, si des héritiers sont surpris et se sentent frustrés, ils pourraient tenter de contester le testament. Des conflits familiaux majeurs risquent de survenir ou de s'aggraver si le testament est considéré comme inéquitable. C'était « Changer son testament sans informer ses héritiers », un texte de Didier Burt, paru le 23 juillet 2026 dans « Bel Age ».